Thérèse Raquin, chapitre 13. Le lendemain, Laurent s'éveilla frais et dispo. Il avait bien dormi. L'air froid qui entrait par la fenêtre fouettait son sang alourdi. Il se rappelait à peine les scènes de la veille. Sans la cuisson ardente qui le brûlait au cou, il aurait pu croire qu'il s'était couché à 10 heures, après une soirée calme. La morsure de Camille était comme un fer rouge posé sur sa peau. Lorsque sa pensée se fut arrêtée sur la douleur que lui causait cette entraille, il en souffrit cruellement. Il lui semblait qu'une douzaine d'aiguilles pénétraient peu à peu dans sa chair. Il rabattit le col de sa chemise et regarda la plaie dans un méchant miroir de 15 sous accroché au mur. Cette plaie faisait un trou rouge, large comme une pièce de 2 sous. La peau avait été arrachée. La chair se montrait, rosâtre, avec des taches noires. Des filets de sang avaient coulé jusqu'à l'épaule, en mince traînée qui s'écaillait. Sur le cou blanc, la morsure paraissait d'un brun sourd et puissant. Elle se trouvait à droite, au-dessous de l'oreille. Laurent, le dos courbé, le cou tendu, regardait, et le miroir verdâtre donnait à sa face une grimace atroce. Il se lava à grande eau, satisfait de son examen, se disant que la blessure serait cicatrisée au bout de quelques jours. Puis il s'habilla et se rendit à son bureau, tranquillement, comme à l'ordinaire. Il y conta l'accident d'une voix émue. Lorsque ses collègues eurent lu le fait divers qui courait la presse, il devint un véritable héros. Pendant une semaine, les employés du chemin de fer d'Orléans n'eurent pas d'autre sujet de conversation. Ils étaient tous fiers qu'un de leurs se fût noyé. Grivet ne tarissait pas sur l'imprudence qu'il y a à s'aventurer en pleine Seine, quand il est si facile de regarder couler l'eau en traversant les ponts. Il restait à Laurent une inquiétude sourde. Le décès de Camille n'avait pu être constaté officiellement. Le mari de Thérèse était bien mort, mais le meurtrier aurait voulu retrouver son cadavre pour qu'un acte formel fût dressé. Le lendemain de l'accident, on avait inutilement cherché le corps du noyé. On pensait qu'il s'était sans doute enfoui au fond de quelque trou, sous les berges des îles. Des ravageurs fouillaient activement la Seine pour toucher la prime. Laurent se donna la tâche de passer chaque matin par la morgue, en se rendant à son bureau. Il s'était juré de faire lui-même ses affaires. Malgré les répugnances qui lui soulevaient le cœur, malgré les frissons qui le secouaient parfois, il alla pendant plus de 8 jours régulièrement examiner le visage de tous les noyés étendus sur les dalles. Lorsqu'il entrait, une odeur fade, une odeur de chair lavée l'écœurait, et des souffles froids couraient sur sa peau. L'humidité des murs semblait alourdir ses vêtements, qui devenaient plus pesants à ses épaules. Il allait droit au vitrage qui sépare les spectateurs des cadavres. Il collait sa face pâle contre les vitres. Il le regardait. Devant lui, s'alignaient les rangées de dalles grises. Ça et là, sur les dalles, des corps nus faisaient des taches vertes et jaunes, blanches et rouges. Certains corps gardaient leur chair vierge dans la rigidité de la mort. D'autres semblaient des tas de viandes sanglantes et pourries. Au fond, contre le mur, pendaient des loques lamentables, des jupes et des pantalons qui grimaçaient sur la nudité du plâtre. Laurent ne voyait d'abord que l'ensemble blafard des pierres et des murailles, tachée de roux et de noir par les vêtements et les cadavres. Un bruit d'eau courante chantait. Peu à peu, il distinguait les corps. Alors il allait de l'un à l'autre. Les noyés seuls l'intéressaient. Quand il y avait plusieurs cadavres gonflés et bleuis par l'eau, il les regardait avidement, cherchant à reconnaître Camille. Souvent, les chairs de leurs visages s'en allaient par lambeaux. Les eaux avaient troué la peau amolie. La face était comme bouillie et désossée. Laurent hésitait. Il examinait les corps. Il tâchait de retrouver les maigreurs de sa victime. Mais tous les noyés sont gras. Il voyait des ventres énormes, des cuisses bouffies, des bras ronds et forts. Il ne savait plus. Il restait frissonnant en face de ces haillons verdâtres qui semblaient se moquer avec des grimaces horribles. Un matin, il fut pris d'une véritable épouvante. Il regardait depuis quelques minutes un noyé, petit de taille, atrocement défiguré. Les chairs de ce noyé étaient tellement molles et dissoutes que l'eau courante qui les lavait les emportait brin à brin. Le jet qui tombait sur la vase creusait un trou à gauche du nez. Et brusquement, le nez s'aplatit. Les lèvres se détachèrent, montrant des dents blanches. La tête du noyé éclata de rire. Chaque fois qu'il croyait reconnaître Camille, Laurent ressentait une brûlure au cœur. Il désirait ardemment retrouver le corps de sa victime, et dès la jetée le prenait, lorsqu'il s'imaginait que ce corps était devant lui. Ses visites à la morgue l'emplissaient de cauchemars, de frissons qui le faisaient haleter. Il secouait ses peurs. Il se traitait d'enfant. Il voulait être fort. Mais malgré lui, sa chair se révoltait. Le dégoût et l'effroi s'emparaient de son être. Dès qu'il se trouvait dans l'humidité et dans l'odeur fade de la salle. Quand il n'y avait pas de noyer sur la dernière rangée de dalles, il respirait à l'aise. Ses répugnances étaient moindres. Il devenait alors un simple curieux. Il prenait un plaisir étrange à regarder la mort violente en face, dans ses attitudes lugubrement bizarres et grotesques. Ce spectacle l'amusait. Surtout lorsqu'il y avait des femmes étalant leurs gorges nues. Ces nudités brutalement étendues, tachées de sang, trouées par endroits, l'attiraient et le retenaient. Il vit, une fois, une jeune femme de 20 ans, une fille du peuple, large et forte, qui semblait dormir sur la pierre. Son corps frais et gras blanchissait avec des douceurs de teinte d'une grande délicatesse. Elle souriait à demi, la tête un peu penchée, étendait la poitrine d'une façon provocante. On aurait dit une courtisane vautrée. Si elle n'avait eu au cou une raie noire qui lui mettait comme un collier d'ombre, c'était une fille qui venait de se pendre par désespoir d'amour. Laurent la regarda longtemps, promenant ses regards sur sa chair. Absorbé dans une sorte de désir peureux. Chaque matin, pendant qu'il était là, il entendait derrière lui le va-et-vient du public qui entrait et qui sortait. La morgue est un spectacle à la portée de toutes les bourses, qui se payent gratuitement les passants, pauvres ou riches. La porte est ouverte, entre qui veut. Il y a des amateurs qui font un détour pour ne pas manquer une de ces représentations de la mort. Lorsque les dalles sont nues, les gens sortent désappointés, volés, murmurant entre leurs dents. Lorsque les dalles sont bien garnies, lorsqu'il y a un bel étalage de chair humaine, les visiteurs se pressent, se donnent des émotions à bon marché, s'épouvantent, plaisantent, applaudissent ou sifflent, comme au théâtre, et se retirent satisfaits en déclarant que la morgue est réussie ce jour-là. Laurent connut vite le public de l'endroit, public mêlé et disparate qui s'apitoyait et ricanait en commun. Des ouvriers entraient, en allant à leur ouvrage avec un pain et des outils sous le bras. Ils trouvaient la mort drôle. Parmi eux se rencontraient des loustiques d'atelier qui faisaient sourire la galerie en disant un mot plaisant sur la grimace de chaque cadavre. Ils appelaient les incendiés des charbonniers, les pendus, les assassinés, les noyés. Les cadavres troués ou broyés excitaient leur verve goguenarde et leur voix, qui tremblait un peu, balbutiait des phrases comiques dans le silence frissonnant de la salle. Puis venaient de petits rentiers, des vieillards maigres et secs, des flâneurs qui entraient par désœuvrement et qui regardaient les corps avec des yeux bêtes et des mous d'hommes paisibles et délicats. Les femmes étaient en grand nombre. Il y avait de jeunes ouvrières toutes roses, le linge blanc, les jupes propres qui allaient d'un bout à l'autre du vitrage, lestement, en ouvrant de grands yeux attentifs, comme devant l'étalage d'un magasin de nouveautés. Il y avait encore des femmes du peuple hébétées, prenant des airs lamentables et des dames bien mises, traînant nonchalamment leurs robes de soie. Un jour, Laurent vit une de ces dernières qui se traînait plantée à quelques pas du vitrage, en appuyant un mouchoir de batiste sur ses narines. Elle portait une délicieuse jupe de soie grise, avec un grand mantelet de dentelle noire. Une voilette lui couvrait le visage et ses mains gantées paraissaient toutes petites et toutes fines. Autour d'elle traînait une senteur douce de violette. Elle regardait un cadavre. Sur une pierre, à quelques pas, était allongé le corps d'un grand gaillard, d'un maçon qui venait de se tuer net en tombant d'un échafaudage. Il avait une poitrine carrée, des muscles gros et courts, une chair blanche et grasse. La mort en avait fait un marbre. La dame l'examinait, le retournait en quelque sorte du regard, le pesait, s'absorbait dans le spectacle de cet homme. Elle leva un coin de sa voilette, regarda encore, puis s'en alla. Par moments, arrivaient des bandes de gamins, des enfants de 12 à 15 ans qui couraient le long du vitrage, ne s'arrêtant que devant les cadavres de femmes. Ils appuyaient leurs mains aux vitres et promenaient des regards effrontés sur les poitrines nues. Ils se poussaient du coude, ils faisaient des remarques brutales, ils apprenaient le vice à l'école de la mort. C'est à la morgue que les jeunes voyous ont leur première maîtresse. Au bout d'une semaine, Laurent était écœuré. La nuit, il rêvait des cadavres qu'il avait vu le matin. Cette souffrance, ce dégoût de chaque jour qu'il s'imposait, finit par le troubler à un tel point qu'il résolut de ne plus faire que deux visites. Le lendemain, comme il entrait à la morgue, il reçut un coup violent dans la poitrine. En face de lui, sur une dalle, Camille le regardait, étendu sur le dos, la tête levée, les yeux entrouverts. Le meurtrier s'approcha lentement du vitrage, comme attiré, ne pouvant détacher ses regards de sa victime. Il ne souffrait pas. Il éprouvait seulement un grand froid intérieur et de légers picotements à fleur de peau. Il aurait cru trembler davantage. Il resta immobile pendant 5 grandes minutes, perdu dans une contemplation inconsciente, gravant malgré lui au fond de sa mémoire toutes les lignes horribles, toutes les couleurs sales du tableau qu'il avait sous les yeux. Camille était ignoble. Il avait séjourné 15 jours dans l'eau. Sa face paraissait encore ferme et rigide. Les traits s'étaient conservés. La peau avait seulement pris une teinte jaunâtre et boueuse. La tête, maigre, osseuse, légèrement tuméfiée, grimaçait. Elle se penchait un peu, les yeux collés, les cheveux collés aux tempes, les paupières levées, montrant le globe blafard des yeux. Les lèvres tordues, tirées vers un des coins de la bouche, avaient un ricanement atroce. Un bout de langue noirâtre apparaissait dans la blancheur des dents. Cette tête, comme tannée et étirée, en gardant une apparence humaine, était restée plus effrayante de douleur et d'épouvante. Le corps semblait un tas de chair dissoute. Il avait souffert horriblement. On sentait que les bras ne tenaient plus. Les clavicules perçaient la peau des épaules. sur la poitrine verdâtre, les côtes faisaient des bandes noires. Le flanc gauche, crevé, ouvert, se creusait au milieu de lambeaux d'un rouge sombre. Tout le torse pourrissait. Les jambes, plus fermes, s'allongeaient, plaquées de taches immondes. Les pieds tombés. Laurent regardait Camille. Il n'avait pas encore vu un noyé si épouvantable. Le cadavre avait, en outre, un air étriqué, une allure maigre et pauvre. Il se ramassait dans sa pourriture. Il faisait un tout petit tas. On aurait deviné que c'était là un employé à 1200 francs. Bête et maladif, que sa mère avait nourri de tisane. Ce pauvre corps, grandi entre des couvertures chaudes, grelottait sur la dalle froide. Quand Laurent put enfin s'arracher à la curiosité poignante qui le tenait immobile et béant, il sortit. Il se mit à marcher rapidement sur le quai. Et tout en marchant, il répétait « Voilà ce que j'en ai fait. Il est ignoble. » Il lui semblait qu'une odeur âcre le suivait. L'odeur que devait exhaler ce corps en putréfaction. Il alla chercher le vieux Michaud et lui dit qu'il venait de reconnaître Camille sur une dalle de la morgue. Les formalités furent remplies. On enterra le noyé, on dressa un acte de décès. Laurent, tranquille désormais, se jeta avec volupté dans l'oubli de son crime et des scènes fâcheuses et pénibles qui avaient suivi le meurtre. Thérèse Raquin. Chapitre 14. La boutique du passage du Pont-Neuf resta fermée pendant 3 jours. Lorsqu'elle s'ouvrit de nouveau, elle parut plus sombre et plus humide. L'étalage, jauni par la poussière, semblait porter le deuil de la maison. Tout traînait à l'abandon dans les vitrines sales. Derrière les bonnets de linge pendus aux tringles rouillées, le visage de Thérèse avait une pâleur plus mate, plus terreuse, une immobilité d'un calme sinistre. Dans le passage, toutes les commères s'apitoyaient. La marchande de bijoux faux montrait à chacune de ses clientes le profil amaigri de la jeune veuve comme une curiosité intéressante et lamentable. Pendant 3 jours, Madame Raquin et Thérèse étaient restées dans leur lit sans se parler, sans même se voir. La vieille mercière assise sur son séant, appuyée contre des oreillers, regardait vaguement devant elle avec des yeux d'idiote. La mort de son fils lui avait donné un grand coup sur la tête, et elle était tombée comme assommée. Elle demeurait des heures entières, tranquille et inerte, absorbée au fond du néant de son désespoir. Puis des crises la prenaient parfois. Elle pleurait, elle criait, elle délirait. Thérèse, dans la chambre voisine, semblait dormir. Elle avait tourné la face contre la muraille et tiré la couverture sur ses yeux. Elle s'allongeait ainsi, roide et muette, sans qu'un sanglot de son corps soulevât le drap qui la couvrait. On eût dit qu'elle cachait dans l'ombre de l'alcôve les pensées qui la tenaient rigide. Suzanne, qui gardait les deux femmes, allait mollement de l'une à l'autre, traînant les pieds avec douceur, penchant son visage de cire sur les deux couches, sans parvenir à faire retourner Thérèse, qui avait de brusques mouvements d'impatience, ni à consoler Madame Raquin, dont les pleurs coulaient dès qu'une voix la tirait de son abattement. Le troisième jour, Thérèse repoussa la couverture, s'assit sur le lit, rapidement, avec une sorte de décision fiévreuse. Elle écarta ses cheveux. En se prenant les tempes, elle resta ainsi un moment, les mains au front, les yeux fixes, semblant réfléchir encore. Puis elle sauta sur le tapis. Ses membres étaient frissonnants et rouges de fièvre. De larges plaques livides marbraient sa peau qui se plissait par endroits comme vide de chair. Elle était vieillie. Suzanne, qui entrait, resta toute surprise de la trouver levée. Elle lui conseilla d'un ton placide et traînard de se recoucher, de se reposer encore. Thérèse ne l'écoutait pas. Elle cherchait et mettait ses vêtements avec des gestes pressés et tremblants. Lorsqu'elle se fut habillée, elle alla se regarder dans une glace, frotta ses yeux, passa ses mains sur son visage, comme pour effacer quelque chose. Puis, sans prononcer une parole, elle traversa vivement la salle à manger et entra chez Madame Raquin. L'ancienne mercière était dans un moment de calme hébété. Quand Thérèse entra, elle tourna la tête et suivit du regard la jeune veuve, qui vint se placer devant elle, muette et oppressée. Les deux femmes se contemplèrent pendant quelques secondes. La nièce, avec une anxiété qui grandissait. La tante, avec des efforts pénibles de mémoire. Se souvenant enfin, Madame Raquin tendit ses bras tremblants et prenant Thérèse par le cou, s'écria « Mon pauvre enfant, mon pauvre Camille !» Elle pleurait. Et ses larmes séchaient sur la peau brûlante de la veuve qui cachait ses yeux secs dans les plis du drap. Thérèse demeura ainsi courbée, laissant la vieille mère épuiser ses pleurs. Depuis le meurtre, elle redoutait cette première entrevue. Elle était restée couchée pour en retarder le moment, pour réfléchir à l'aise au rôle terrible qu'elle avait à jouer. Quand elle vit Madame Raquin plus calme, elle s'agita autour d'elle. Elle lui conseilla de se lever, de descendre à la boutique. La vieille mercière était presque tombée en enfance. L'apparition brusque de sa nièce avait amené en elle une crise favorable qui venait de lui rendre en la mémoire et la conscience des choses et des êtres qui l'entouraient. Elle remercia Suzanne de ses soins. Elle parla, affaiblie, ne délirant plus, pleine d'une tristesse qui l'étouffait par moments. Elle regardait marcher Thérèse avec des larmes soudaines. Alors elle l'appelait auprès d'elle, l'embrassait en sanglotant encore, lui disait en suffoquant qu'elle n'avait plus qu'elle au monde. Le soir, elle consentit à se lever, à essayer de manger. Thérèse put alors voir quel horrible, quel terrible coup avait reçu sa tante. Les jambes de la pauvre vieille s'étaient alourdies. Il lui fallut une canne pour se traîner dans la salle à manger, et là, il lui sembla que les murs vacillaient autour d'elle. Dès le lendemain, elle voulut cependant qu'on ouvrît la boutique. Elle craignait de devenir folle en restant seule dans sa chambre. Elle descendit pesamment l'escalier de bois, en posant les deux pieds sur chaque marche, et vint s'asseoir derrière le comptoir. À partir de ce jour-là, elle y resta clouée dans une douleur sereine. À côté d'elle, Thérèse songeait et attendait. La boutique reprit son calme noir. Thérèse Raquin, chapitre 15. Laurent revint parfois le soir, tous les deux ou trois jours. Il restait dans la boutique, causant avec Madame Raquin pendant une demi-heure. Puis il s'en allait sans avoir regardé Thérèse en face. La vieille mercière le considérait comme le sauveur de sa nièce, comme un noble cœur qui avait tout fait pour lui rendre son fils. Elle l'accueillait avec une bonté attendrie. Un jeudi soir, Laurent se trouvait là, lorsque le vieux Michaud et Grivet entrèrent. 8 heures sonnaient. L'employé et l'ancien commissaire avaient jugé chacun de leur côté qu'ils pouvaient reprendre leurs chères habitudes, sans se montrer importuns, et ils arrivaient à la même minute, comme poussés par le même ressort. Derrière eux, Olivier et Suzanne firent leur entrée. On monta dans la salle à manger. Madame Raquin, qui n'attendait personne, se hâta d'allumer la lampe et de faire du thé. Lorsque tout le monde se fut assis autour de la table, chacun devant sa tasse, lorsque la boîte de dominos eut été vidée, la pauvre mère, subitement ramenée dans la panse, dans le passé, regarda ses invités et éclata en sanglots. Il y avait une place vide, la place de son fils. Ce désespoir glaça et ennuya la société. Tous les visages avaient un air de béatitude égoïste. Ces gens se trouvèrent gênés, n'ayant plus dans le cœur le moindre souvenir vivant de Camille. « Voyons, chère dame, s'écria le vieux Michaud avec une légère impatience. Nous ne pouvons pas vous désespérer comme cela. Vous vous rendrez malade. Nous sommes tous mortels, affirma Grivet. Vos pleurs ne vous rendront pas votre fils, dit sentencieusement Olivier. Je vous en prie, murmura Suzanne, ne nous faites pas de la peine. Et comme Madame Raquin sanglotait plus fort, ne pouvant arrêter ses larmes, « Allons, allons, reprit Michaud, un peu de courage. Vous comprenez bien que nous venons ici pour vous distraire. Que diable, ne nous attristons pas, tâchons d'oublier. Nous jouons à 2 sous la partie. Hein, qu'en dites-vous ? » La mercière rentra ses pleurs, dans un effort suprême. Peut-être eut-elle conscience de l'égoïsme heureux de ses hôtes. elle essuya ses yeux, encore toute secouée. Les dominos tremblaient dans ses pauvres mains, et les larmes restées sous ses paupières l'empêchaient de voir. On joua. Laurent et Thérèse avaient assisté à cette courte scène d'un air grave et impassible. Le jeune homme était enchanté de voir revenir les soirées du jeudi. Il les souhaitait ardemment, sachant qu'il aurait besoin de ces réunions pour atteindre son but. Puis, sans se demander pourquoi, il se sentait plus à l'aise au milieu de ces quelques personnes qu'il connaissait, il osait regarder Thérèse en face. La jeune femme, vêtue de noir, pâle et recueillie, lui parut avoir une beauté qu'il ignorait encore. Il fut heureux de rencontrer ses regards et de les voir s'arrêter sur les siens avec une fixité courageuse. Thérèse lui appartenait toujours, chair et cœur. Thérèse Raquin. Chapitre 16. 15 mois se passèrent. Les âpretés des premières heures s'adoucirent. Chaque jour amena une tranquillité, un affaissement de plus. La vie reprit son cours avec une langueur lasse. Elle eut cette stupeur monotone qui suit les grandes crises. Et dans les commencements, Laurent et Thérèse se laissèrent aller à l'existence nouvelle qui les transformait. Il se fit entre eux un travail sourd qu'il faudrait analyser avec une délicatesse extrême si l'on voulait en marquer toutes les phases. Laurent revint bientôt chaque soir à la boutique, comme par le passé. Mais il n'y mangeait plus, il ne s'y établissait plus pendant des soirées entières. Il arrivait à 9h30 et s'en allait après avoir fermé le magasin. On eût dit qu'il accomplissait un devoir en venant se mettre au service des deux femmes. S'il négligeait un jour sa corvée, il s'excusait le lendemain avec des humilités de valet. Le jeudi, il aidait Madame Raquin à allumer le feu, à faire les honneurs de la maison. Il avait des prévenances tranquilles qui charmaient la vieille mercière. Thérèse le regardait paisiblement s'agiter autour d'elle. La pâleur de son visage s'en était allée. Elle paraissait mieux portante, plus souriante, plus douce. À peine si parfois sa bouche, en se pinçant dans une contraction nerveuse, creusait deux plis profonds qui donnaient à sa face une expression étrange de douleur et d'effroi. Les deux amants ne cherchèrent plus à se voir en particulier. Jamais ils ne se demandèrent un rendez-vous. Jamais ils n'échangèrent furtivement un baiser. Le meurtre avait comme apaisé pour un moment les fièvres voluptueuses de leur chair. Ils étaient parvenus à contenter, en tuant Camille, ces désirs fougueux et insatiables qu'elle n'avait pu assouvir en se brisant dans les bras l'un de l'autre. Le crime leur semblait une jouissance aiguë qui les écœurait et les dégoûtait de leurs embrassements. Ils auraient eu cependant 1000 facilités pour mener cette vie libre d'amour dont le rêve les avait poussés à l'assassinat. Madame Raquin, impotente et hébétée, n'était pas un obstacle. La maison leur appartenait. Ils pouvaient sortir, aller où bon leur semblait. Mais l'amour ne les tentait plus. Leurs appétits s'en étaient allés. Ils restaient là, causant avec calme, se regardant sans rougeur et sans frisson, paraissant avoir oublié les étreintes folles qui avaient meurtri leur chair et fait craquer leurs os. Ils évitaient même de se rencontrer seul à seul. Dans l'intimité, ils ne trouvaient rien à se dire. Ils craignaient tous deux de montrer trop de froideur. Lorsqu'ils échangeaient une poignée de main, ils éprouvaient une sorte de malaise en sentant leur peau se toucher. D'ailleurs, ils croyaient s'expliquer chacun ce qui les tenait aussi indifférents et effrayés en face l'un de l'autre. Ils mettaient leur attitude froide sur le compte de la prudence. Leur calme, leur abstinence, selon eux, était œuvre de haute sagesse. Ils prétendaient vouloir cette tranquillité de leur chair, ce sommeil de leur cœur. D'autre part, ils regardaient la répugnance, le malaise qu'ils ressentaient comme un reste d'effroi, comme une peur sourde du châtiment. Parfois, ils se forçaient à l'espérance. Ils cherchaient à reprendre les rêves brûlants d'autrefois, et ils demeuraient tout étonnés, en voyant que leur imagination était vide. Alors ils se cramponnaient à l'idée de leur prochain mariage. Arrivés à leur but, n'ayant plus aucune crainte, livrés l'un à l'autre, ils retrouveraient leur passion. Ils goûteraient les délices rêvés. Cet espoir les calmait, les empêchait de descendre au fond du néant qui s'était creusé en eux. Ils se persuadaient qu'ils s'aimaient comme par le passé. Ils attendaient l'heure qui devait les rendre parfaitement heureux en les liant pour toujours. Jamais Thérèse n'avait eu l'esprit si calme. Elle devenait certainement meilleure. Toutes les volontés implacables de son être se détendaient. La nuit, seule dans son lit, elle se trouvait heureuse. Elle ne sentait plus à son côté la face maigre, le corps chétif de Camille qui exaspérait sa chair et la jetait dans des désirs inassouvis. Elle se croyait petite fille, vierge sous les rideaux blancs, paisible au milieu du silence et de l'ombre. Sa chambre, vaste, un peu froide, lui plaisait, avec son plafond élevé, ses coins obscurs, ses senteurs de cloître. Elle finissait même par aimer la grande muraille noire qui montait devant sa fenêtre. Pendant tout un été, chaque soir, elle resta des heures entières à regarder les pierres grises de cette muraille et les nappes étroites de ciel étoilé qui découpaient les cheminées et les toits. Elle ne pensait à Laurent que lorsqu'un cauchemar l'éveillait en sursaut. Alors, assise sur son séant, tremblante, les yeux agrandis, se serrant dans sa chemise, elle se disait qu'elle n'éprouverait pas ses peurs brusques si elle avait un homme couché à côté d'elle. Elle songeait à son amant comme à un chien qui l'eût gardé et protégé. Sa peau fraîche et calme n'avait pas un frisson de désir. Le jour, dans la boutique, elle s'intéressait aux choses extérieures. Elle sortait d'elle-même, ne vivant plus sourdement révoltée, repliée en pensée de haine et de vengeance. La rêverie l'ennuyait. Elle avait le besoin d'agir et de voir. Du matin au soir, elle regardait les gens qui traversaient le passage. Ce bruit, ce va-et-vient l'amusait. Elle devenait curieuse et bavarde, femme en un mot, car jusque-là, elle n'avait eu que des actes et des idées d'homme. Dans l'espionnage qu'elle établit, elle remarqua un jeune homme, un étudiant qui habitait un hôtel garni du voisinage et qui passait plusieurs fois par jour devant la boutique. Ce garçon avait une beauté pâle, avec de grands cheveux de poète et une moustache d'officier. Thérèse le trouva distingué. Elle en fut amoureuse pendant une semaine. Amoureuse comme une pensionnaire. Elle lut des romans, elle compara le jeune homme à Laurent et trouva ce dernier bien épais, bien lourd. La lecture lui ouvrit des horizons romanesques qu'elle ignorait encore. Elle n'avait aimé qu'avec son sang et ses nerfs. Elle se mit à aimer avec sa tête. Puis, un jour, l'étudiant disparut. Il avait sans doute déménagé. Thérèse l'oublia en quelques heures. Elle s'abonna à un cabinet littéraire et se passionna pour tous les héros des contes qui lui passèrent sous les yeux. Ce subit amour de la lecture eut une grande influence sur son tempérament. Elle acquit une sensibilité nerveuse qui qui la faisait rire ou pleurer sans motif. L'équilibre qui tendait à s'établir entre elles fut rompu. Elle tomba dans une sorte de rêverie vague. Par moments, la pensée de Camille la secouait, et elle songeait à Laurent, avec de nouveaux désirs, plein d'effroi et de méfiance. Elle fut ainsi rendue à ses angoisses. Tantôt, elle cherchait un moyen pour épouser son amant à l'instant même. Tantôt, elle songeait à se sauver, à ne jamais le revoir. Les romans, en lui parlant de chasteté et d'honneur, mirent comme un obstacle entre ses instincts et sa volonté. Elle resta la bête indomptable qui voulait tuer avec la Seine, qui voulait lutter avec la Seine et qui s'était jetée violemment dans l'adultère. Mais elle eut conscience de la bonté et de la douceur. Elle comprit le visage mou et l'attitude morte de la femme d'Olivier. Elle sut qu'on pouvait ne pas tuer son mari et être heureuse. Alors, elle ne se vit plus bien elle-même. Elle vécut dans une indécision cruelle. De son côté, Laurent passa par différentes phases de calme et de fièvre. Il goûta d'abord une tranquillité profonde. Il était comme soulagé d'un poids énorme. Par moments, il s'interrogeait avec étonnement. Il croyait avoir fait un mauvais rêve. Et se demandait s'il était bien vrai qu'il eût jeté Camille à l'eau et qu'il eût rêvé son cadavre sur une dalle de la morgue. Les souvenirs de son crime le surprenaient étrangement. Jamais il ne se serait cru capable d'un assassinat. Toute sa prudence, toute sa lâcheté frissonnait. Il lui montait au front des sueurs glacées lorsqu'il songeait qu'on aurait pu découvrir son crime et le guillotiner. Alors il sentait à son cou le froid du couteau. Tant qu'il avait agi, il était allé droit devant lui, avec un entêtement et un aveuglement de brute. Maintenant il se retournait, et à voir l'abîme qu'il venait de franchir, des défaillances d'épouvante le prenaient. Sûrement j'étais ivre, pensait-il. Cette femme m'avait saoulé de caresses. J'étais bête et fou. Je risquais la guillotine avec une pareille histoire. Enfin, tout s'est bien passé. Si c'était à refaire, je ne recommencerais pas. Laurence a fait ça, devint mou, plus lâche et plus prudent que jamais. Il engraissa et s'avachit. Quelqu'un qui aurait étudié ce grand corps, tassé sur lui-même, et qui ne paraissait n'avoir ni os ni nerfs, n'aurait jamais songé à l'accuser de violence et de cruauté. Il reprit ses anciennes habitudes. Il fut pendant plusieurs mois un employé modèle, faisant sa besogne avec un abrutissement exemplaire. Le soir, il mangeait dans une crèmerie de la rue Saint-Victor, coupant son pain par petites tranches, mâchant avec lenteur, faisant traîner son repas le plus possible. Puis il se renversait, il s'adossait au mur et fumait sa pipe. On aurait dit un bon gros père. Le jour, il ne pensait à rien. La nuit, il dormait d'un sommeil lourd et sans rêve. Le visage rose et gras, le ventre plein, le cerveau vide, il était heureux. Sa chair semblait morte. Il ne songeait guère à Thérèse. Il pensait parfois à elle, comme on pense à une femme qu'on doit épouser plus tard, dans un avenir indéterminé. Il attendait l'heure de son mariage avec patience, oubliant la femme, rêvant à la nouvelle position qu'il aurait alors. Il quitterait son bureau, il peindrait en amateur, il flânerait. Ses espoirs le ramenaient, chaque soir, à la boutique du passage, malgré le vague malaise qu'il éprouvait en y entrant. Un dimanche, s'ennuyant, ne sachant que faire, il alla chez son ancien ami de collège, chez le jeune peintre avec lequel il avait logé pendant longtemps. L'artiste travaillait à un tableau qu'il comptait envoyer au salon, et qui représentait une Bacchante nue. vautré sur un lambeau d'étoffe. Dans le fond de l'atelier, un modèle. Une femme était couchée, la tête ployée en arrière, le torse nu, la hanche haute. Cette femme riait par moments et tendait la poitrine, allongeant les bras, s'étirant pour se délasser. Laurent, qui s'était assis en face d'elle, la regardait, en fumant et en causant avec son ami. Son sang battit, ses nerfs s'irritèrent dans cette contemplation. Il resta jusqu'au soir et l'emmena la femme chez lui. Pendant près d'un an, il la garda pour maîtresse. La pauvre fille s'était mise à l'aimer, le trouvant bel homme. Le matin, elle partait, allait poser tout le jour et revenait régulièrement chaque soir à la même heure. Elle se nourrissait, s'habillait, s'entretenait avec l'argent qu'elle gagnait, ne coûtant ainsi pas un sou à Laurent, qui ne s'inquiétait nullement d'où elle venait ni de ce qu'elle avait pu faire. Cette femme mit un équilibre de plus dans sa vie, comme un objet utile et nécessaire qui maintient un corps en paix et en santé. Elle ne sut jamais s'il l'aimait, et jamais il ne lui vint à l'idée qu'il était infidèle à Thérèse. Il se sentait plus gras et plus heureux, voilà tout. Cependant, le deuil de Thérèse était fini. La jeune femme s'habillait de robes claires, et il arriva qu'un soir, Laurent la trouva rajeunie et embellie. Mais il éprouvait toujours un certain malaise devant elle. Depuis quelque temps, elle lui paraissait fiévreuse, pleine de caprices étranges, riant et s'attristant sans raison. La décision où il la voyait l'effrayait, car il devinait en partie ses luttes et ses troubles. Il se mit à hésiter, ayant une peur atroce de compromettre sa tranquillité. Lui, il vivait paisible, dans un contentement sage de ses appétits. Il craignait de risquer l'équilibre de sa vie en se liant à une femme nerveuse dont la passion l'avait déjà rendu fou. D'ailleurs, il ne raisonnait pas ces choses. Il sentait d'instinct les angoisses que la possession de Thérèse devait mettre en lui. Le premier choc qu'il reçut et qui le secoua dans son affaissement fut la pensée qu'il lui fallait enfin songer à son mariage. Il y avait près de 15 mois que Camille était mort. Un instant, Laurent pensa à ne pas se marier du tout, à planter la Thérèse et à garder le modèle dont l'amour complaisant et à bon marché lui suffisait. Puis il se dit qu'il ne pouvait avoir tué un homme pour rien, en se rappelant le crime, les efforts terribles qu'il avait faits pour posséder à lui seul cette femme qui le troublait maintenant. Il sentit que le meurtre deviendrait inutile et atroce s'il ne se mariait pas avec elle. Jeter un homme à l'eau afin de lui voler sa veuve, attendre 15 mois et se décider ensuite à vivre avec une petite fille qui traînait son corps dans tous les ateliers, lui parut ridicule et le fit sourire. D'ailleurs, n'était-il pas lié à Thérèse par un lien de sang et d'horreur? Il la sentait vaguement crier et se tordre en lui. Il lui appartenait. Il avait peur de sa complice. Peut-être, s'il ne l'épousait pas, irait-elle tout dire à la justice, par vengeance et jalousie. Ses idées battaient dans sa tête. La fièvre le reprit. Sur ces entrefaites, le modèle le quitta brusquement. Un dimanche, cette fille ne rentra pas. Elle avait sans doute trouvé un gîte plus chaud et plus confortable. Laurent fut médiocrement affligé. Seulement, il s'était habitué à avoir la nuit une femme couchée à son côté, et il éprouva un vide subit dans son existence. 8 jours après, ses nerfs se révoltèrent. Il revint s'établir, pendant des soirées entières, dans la boutique du passage, regardant de nouveau Thérèse avec des yeux où luisaient des lueurs rapides. La jeune femme, qui sortait toute frissonnante des longues lectures qu'elle faisait, s'alanguissait et s'abandonnait sous ses regards. Il en était ainsi revenu tous deux à l'angoisse et au désir, après une longue année d'attente écœurée et indifférente. Un soir, Laurent, fermant la boutique, retint un instant Thérèse dans le passage. « Veux-tu que je vienne ce soir dans ta chambre ?» lui demanda-t-il d'une voix ardente. La jeune femme fit un geste d'effroi. « Non, non, attendons, dit-elle, soyons prudents. « J'attends depuis assez longtemps, je crois, » reprit Laurent. « Je suis là, je te veux !» Thérèse le regarda follement. Des chaleurs lui brûlaient les mains et le visage. Elle sembla hésiter, puis d'un ton brusque, « Marions-nous, je serai à toi !»